France Inter, le 6-9 du week-end, Éric Delvaux.
Bonjour François Bégodeau.
Bonjour.
Romancier, dramaturge et scénariste, mais c'est l'essayiste que nous recevons ce matin pour ce livre. L'histoire de ta bêtise aux éditions Pauvert. Ce n'est pas seulement un livre anti-Macron, c'est d'abord un essai contre la pensée dominante. Un essai sur les dénis de posture, le prêt à nommer, le prêt à penser, avec en toile de fond les rapports de classe et au passage votre aversion pour les bourgeois. Vous écrivez d'ailleurs des lignes bien plus sévères envers les bourgeois et leur monde marchand et libéral qu'envers le fascisme. Comment vous justifiez ça?
Chaque chose en son temps. C'est un livre sur la bourgeoisie, c'est pas un livre sur le fascisme. Un jour, je ferai sans doute un livre sur le fascisme ou sur le glissement autoritaire de la droite, qui touchera d'ailleurs en premier la bourgeoisie. Là, c'est mon sujet, c'est la bourgeoisie. Donc, c'est à elle que je réserve mes analyses, éventuellement mes pics.
Vous avez défendu une gauche sociale, vous accordez parfois plus de crédit aux thèses d'Éric Zemmour dans ce livre plutôt qu'à celle de Raphaël Entoven. Vous êtes d'accord notamment sur son analyse de classe avec Éric Zemmour, c'est-à-dire?
Oui, on peut pas généraliser sur je suis d'accord plus avec Zemmour qu'avec Entoven. Il y a un moment où je vois un débat à la télé. Zemmour parle en termes de classe. Il dit que le vote Macron était un vote bourgeois. Et en face, Entoven, qui devrait être un peu plus proche de moi, normalement, nie que cet été a un vote de classe. Je dis qu'à ce moment-là, je suis plus d'accord avec Zemmour. Et je reconnais dans le déni de Raphaël Entoven à ce moment-là, un déni qui est très caractéristique de sa classe, qui est toujours de se nier. Comme classe, c'est de se nier. La bourgeoisie se nie toujours comme bourgeoisie. C'est pour ça que ce moment de télé m'intéresse.
Parmi le prêt à penser ou le prêt à nommer que vous égrenez dans ce livre, il y a aussi le populisme, ou plutôt les populismes, car ça permet de les accommoder à pas mal de sauces. Qu'est-ce qui vous dérange quand on se réfère au populisme pour qualifier le discours de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon?
En tant qu'écrivain, je crois que ce qui préside à la carrière d'écrivain, la vocation, au travail d'écrivain, soyons plus modestes, c'est d'être très tatillon sur les mots. C'est que pour moi, les mots sont des choses, sont des êtres, sont des animaux vivants, vous voyez. Alors ça me fait très très mal aux oreilles quand je trouve qu'un mot sonne creux. Comme quand un mot est ce que Deleuze appelait une dent creuse. Mmh. Et donc j'entends populisme depuis maintenant une bonne dizaine d'années, à peu près 100 fois par jour. J'ai très mal aux oreilles parce que c'est un mot creux, c'est un mot qui n'a pas de contenu. Et il suffit d'ailleurs de demander à ceux qui en font un usage immodéré de le définir pour voir à quel point ils sont là, très très vite, tétanisés, puisque ce mot n'a pas de contenu. Alors il y a une autre opération...
Il y a deux exceptions au mot populisme. Il y a son acception littéraire théorisée par Théris dans les années 30.
Oui, peu importe, passons vite.
Et puis il y a son acception politique, oui. Et elle est souvent associée finalement à la démagogie, c'est pas la même chose.
Tout à fait, sauf que je ne vois pas encore quoi les gens qu'on appelle populistes sont plus démagos que les autres. Donc ça ne fonctionne pas une seule seconde. Non, je pense que le mot populiste a aucune valeur sémantique, il n'a aucun contenu. Par contre, il a une valeur d'usage. Il est utilisé par certaines personnes pour, disons, réaliser une certaine opération. Une opération idéologique, une opération stratégique. Bon, c'est évidemment une disqualification, hein. Il s'agit de disqualifier l'adversaire, oui. Et puis effectivement de mettre dans le même camp. Alors ça a été l'invention du pluriel, hein, qui est arrivé il y a 4-5 ans, hein. Pendant très très longtemps, on a dit le populisme, puis d'un seul coup, on s'est mis les populistes pour rassembler la gauche radicale et l'extrême droite dans le même sac. Donc ça, c'est des opérations idéologiques, hein, au sens propre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout de produire du sens, il ne s'agit pas du tout de convoquer les mots pour essayer de nommer le réel, il s'agit de convoquer les mots au titre de certaines stratégies politiques et en l'occurrence de disqualification.
Vous confiez, plus jeune, avoir eu cette expression un peu brute, un peu brutale, un peu rapide, la détestation du bourgeois. Est-ce qu'elle fait partie de votre héritage social, pour reprendre Bourdieu, que vous évoquiez?
Non, c'est vrai que j'ai grandi dans l'adversité par rapport à la bourgeoisie, c'est vrai. J'étais au lycée avec des bourgeois et nous étions très adversaires politiquement. Donc c'est vrai que je me suis beaucoup formé et construit dans l'adversité par rapport à la classe bourgeoise. La haine absolument pas, la détestation sûrement pas. Je dirais que ce qui a présidé à ce livre, c'est plutôt l'immense sidération qui a été la mienne devant la bêtise de la bourgeoisie. Et notamment la bêtise telle qu'elle s'est particulièrement manifestée pendant l'élection présidentielle de 2017. C'est de là que je pars, c'est pas mon objet, mais c'est de là que je pars. J'entendais ces gens parler, je les entendais d'ailleurs apeurés, hein, ils avaient très peur pour leurs privilèges, ils avaient très peur pour leur droit en place, et donc en général la peur en termes de réflexion est très mauvaise conseillère, ça les rendait très très bêtes. C'est cette bêtise que j'essaie d'analyser, qui d'ailleurs s'inscrit je crois dans un motif littéraire assez ancien. Ce n'est pas d'hier que des écrivains se sont penchés sur la bêtise de la bourgeoisie. Parce que c'est vrai que la bêtise a souvent été associée à la bourgeoisie. Moi, j'essaie un peu de renouveler ce genre-là.
La bêtise, c'est quand il y avait une sorte d'injonction innommée, innommable, de choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Pour vous, c'était une ineptie?
La chose en elle-même, non. Toutes les phrases qui accompagnaient cette manœuvre de propagande, alors celles-là, il faudrait les prendre une par une. Mais c'est des mots creux, encore une fois. Bon, un camp s'est prévalu d'être progressiste. Et donc tous les leaders d'opinion, ou tous les chiens de garde de Macron, ou tous les gens qui avaient sa sympathie, enfin qui avaient de la sympathie pour lui, qui relayaient un peu le macronisme aux tables des cafés, hein, chez vous, chez moi, tous ces gens-là se sont mis à se dire progressistes. Et alors, des fois, moi, bêtement, hein, parce que je suis un petit con, je demandais, mais alors qu'est-ce que
vous
tu entends par
malin,
là?
C'est différent.
Qu'est-ce que tu entends par là? Et alors là, il n'y a plus personne. Donc, c'est marrant, cette capacité qu'a cette classe, bon, elle n'a pas le monopole de cet usage-là, mais elle le fait quand même beaucoup, notamment quand elle a peur, bah, d'utiliser des mots dont elle-même ne saurait pas donner le sens. C'est quand même extraordinaire, ça, si vous voulez. Et c'est vrai qu'encore une fois, aux oreilles d'un écrivain, c'est particulièrement pénible.
Le bourgeois, sous l'Ancien Régime, c'est celui aussi qui avait le droit de voter. Ce droit de vote, aujourd'hui, surtout pour la présidentielle, vous estimez qu'il est quoi? Inepte? Il ne sert à rien, ce vote? En tout cas, vous le refusez à vous-même. Pour quelle raison?
Ça fait 200 ans que... 200 ans, 150 ans plus sûrement, 100 ans encore plus, et depuis quelques années avec beaucoup plus de vigueur encore, que toute une lignée d'intellectuels, de penseurs ou de groupes de contestation savent, ont démontré, sont convaincus que la démocratie représentative n'est pas la démocratie. Donc c'est ça le vrai débat, par-delà la contingence de voter au présidentiel ou pas, hein, bon, ce que je trouve des choix moi, assez finalement réversibles et aléatoires. On peut voter, on peut pas voter, peu importe. Mais par contre, d'être absolument convaincu que la démocratie n'a rien à voir avec la représentation, alors ça c'est profond. Et ça appelle une refonte profonde de notre régime.
Alors, pour le timing, pour la sortie de votre livre, c'est pas de chance, si on peut dire, car votre livre est parti à l'imprimerie au moment où émergeaient les gilets jaunes. D'abord, est-ce que les gilets jaunes, c'est une vue sociétale qui vous inspire?
Moi, ce qui m'a frappé, je vais essayer de rester un peu proche de mon livre, hein. Désolé, on se refait pas. Enfin, disons, on tient toujours un petit peu à parler de ce qu'on a écrit.
Mais on en parle ce matin.
Ce qui m'a frappé, c'est la réaction de la bourgeoisie devant les gilets jaunes. Là, depuis, si des gens doutaient encore qu'il y ait des réflexes de classe... alors qu'il regarde la bourgeoisie faire depuis 2 mois, depuis que ce mouvement, qui est un mouvement populaire, on ne sait pas si c'est un mouvement de gauche, de droite, progressiste, réactionnaire, enfin il est un peu tout ça,
bon,
mais en tout cas c'est un mouvement indéniablement social, hein, et populaire. Alors là vraiment bon, et donc, vous voyez les réflexes de classe en face. Et ça alors, moi je dois dire que c'est un spectacle à la fois savoureux et détestable, les deux en même temps, hein. On a toujours des rapports un peu pervers avec la bourgeoisie, fascination, répulsion, tout ça. Alors là c'est vrai que depuis 2 mois de voir les réflexes idéologiques de la classe dominante par rapport à ce mouvement populaire, c'est pour moi ça a été une confirmation de mon livre, hein, une sorte d'appendice visuel à ce que j'avais essayé d'écrire.
Mais François Bégodeau, quand vous parlez de refonte du régime, les Gilets jaunes, on se dit qu'ils souhaiteraient aussi une refonte du régime. Je suis pas sûr que vous pensiez dans les mêmes termes que...
Ben quand il parle du référendum d'initiative citoyenne...
Ce serait ça, une refonte du régime? Ou ce serait plutôt... À vous entendre tout à l'heure, je me disais, tiens, est-ce que ce serait un retour aux... Par exemple, aux grands électeurs, je ne sais pas.
Aux grands électeurs? Oui. Ben non, ben sûrement pas.
Non, sûrement pas.
On va pas revenir aux censitaires.
Non, je ne sais pas. Je vous pose la question.
Non, non, mais moi, je crois que c'est au peuple lui-même de se donner ses propres institutions. Donc, ce n'est pas moi qui, ce matin... un samedi sur France Inter, va vous donner la clé des nouvelles institutions.
Mais pour ça,
en revanche, tout ce qui injecte de la démocratie réelle dans nos institutions est tout à fait intéressant. Chouard dit un truc très... Attention, je viens de prononcer un mot interdit, Étienne Chouard, mais je l'assume. Étienne Chouard, donc, type absolument passionnant sur ces histoires-là, dit un truc très simple. Il est tout à fait incroyable que les gens qui rédigent notre constitution sont ceux qui précisément auxquels elle se destine, enfin qu'elle est destinée à contrôler. Vous pouvez pas être à la fois le contrôleur et le contrôlé. Donc il faut absolument que les constituants soient des gens qui émergent du peuple, par exemple par tirage au sort. Ça c'est quand même la base, parce que sinon vous avez un système en vase clos où des gens gouvernent pour eux-mêmes, décident des lois qui les arrangent, décident d'une constitution qui finalement ne fait que pérenniser leur propre pouvoir sélectif. Et
mais
évidemment
vous
ça c'est le premier geste d'une démocratie.
Alors là j'en reviens vraiment lire. Es-tu si éteint qu'il faille te souhaiter un malheur pour te rallumer? À un moment donné, vous écrivez ça.
Ça, je pense que c'est la partie plus anthropologique de mon livre où, comment dire, là je lance des intuitions presque littéraires. Et donc elles sont à prendre ou à laisser, c'est le lecteur qui tranche. il me frappe parfois dans le, ce que j'appellerais le corps bourgeois, qu'on peut identifier, hein, on peut le décrire. Eh bien, ce corps est, je trouve, on aurait dit débile au XVIIe siècle. Vous voyez, débile voulait dire faible à l'époque, débile. Je trouve qu'il y a une certaine, il y a un abêtissement de la bourgeoisie que j'essaie d'expliquer.
Et Bouvard et Pécuchet.
On n'en est plus à Bouvard et Pécuchet parce que Bouvard et Pécuchet au moins avaient une bêtise propre qui était celle de croire à la culture universelle et de passer leur vie à se cultiver. Je suis pas sûr que cette passion traverse beaucoup la bourgeoisie contemporaine, qui est en voie d'ailleurs de déculturation, d'abêtissement, etc. Mais je trouve aussi, il y a une certaine dégénérescence de la classe dominante, ouais. Je trouve que ces corps-là s'affaiblissent. Peut-être parce qu'ils croient un peu moins en eux-mêmes, peut-être parce que leur vie est de plus en plus dématérialisée. Alors là, vous voyez, il y aurait des considérations un petit peu chimiques à avoir sur c'est quoi les modes de vie bourgeois, quoi. C'est quoi de passer sa vie dans une espèce de monde un peu liquide, dans des intérieurs qui sont particulièrement aseptisés, de rentrer chez eux, de se faire livrer de la bouffe comme ça, sur un mode un peu magique, une bouffe dont ils ne savent pas d'où elle vient, par qui elle est produite, et puis ensuite de se finir avec une bonne série américaine, qui est un genre un peu liquide, comme ça on voit passer les images, et finalement on s'en souvient pas, ça passe, vous voyez. Je crois qu'il y a quand même un moment, tout ça finit par refaçonner les corps. Hein. Donc oui, Je lance l'hypothèse à la fin du livre qu'on a affaire à une classe bon, qu'on pourrait appeler classiquement décadente, en fait.
À la Révolution française, le bourgeois est remplacé par le citoyen. La Révolution, c'est un concept qui n'apparaît pas dans votre livre. Comment aujourd'hui, sans Révolution et sans voter, faites-vous émerger la cause citoyenne ?
Vous voulez absolument faire de moi un leader politique qui
pas
va vous
tout,
expliquer
pas
comment.
Du tout. J'ai bien lu votre livre.
Je suis qu'un intellectuel dégénéré qui essaie d'écrire des livres qui portent une certaine justesse. Hein, vous voyez, donc j'ai essayé d'analyser une classe, j'ai essayé de l'observer, j'ai essayé d'en faire à la fois la sociologie, l'anthropologie, la psychologie aussi, la psychologie bourgeoise. Je peux pas faire beaucoup plus que ça. Le reste sera décidé par les gens eux-mêmes. Je peux pas vous lire autrement. Je suis désolé de décevoir votre attente.
Mais vous ne décevez rien du tout. J'ai repéré juste que le mot révolution, qui était le titre d'ailleurs du livre de campagne d'Emmanuel Macron.
Ben voilà, c'est-à-dire que non seulement la pensée révolutionnaire, ou disons l'horizon révolutionnaire, me paraît pas forcément un horizon souhaitable, mais en plus quand vous avez, je crois d'ailleurs à quelques mois d'intervalle, il y a eu non seulement le livre de Macron qui s'appelait Révolution, donc on voit bien que ces gens-là ont un rapport au mot qui est complètement déglingué. Je veux dire, vraiment, pour que lui utilise le mot révolution, c'est quand même extraordinaire. Et je crois que peu avant, on avait eu aussi Cohn-Bendit, oui, qui avait écrit un livre qui s'appelait La révolution institutionnelle, je sais pas, un truc comme ça. Bon, à partir du moment où des gens comme Cohn-Bendit ou Macron s'emparent d'un mot, alors l'hygiène intellectuelle consiste à très très vite se déprendre de ce mot.
Sur votre plaisir d'écrire que vous évoquez dans ce livre, vous reconnaissez vous plaire en écrivant, le plaisir de vous trouver du talent à fignoler une phrase. Est-ce qu'on écrit pour soi ou pour les autres d'ailleurs?
Je crois qu'en l'occurrence, et c'est comme ça que j'explique, je me pose un peu la question dans le livre, j'essaie de faire une auto-analyse aussi, hein, y a pas de raison, il faut toujours retourner un peu la flèche contre soi. Je dirais, mais comment moi qui ai un patrimoine bourgeois, je n'ai pas un système d'opinion bourgeois. Donc ça, c'est une vraie question, une question qui demande une analyse assez pointue. Et j'ai plusieurs types de réponses à cette question-là, qui est une question très très compliquée. Donc je renvoie le lecteur potentiel aux réponses que je propose, mais j'en ai une qui est que c'est ma constitution de littéraire. C'est-à-dire qu'au bout du compte, littéraire, ou alors aimant bien les mots, aimant bien la pensée. Et c'est vrai que d'une certaine manière, il y a un moment que j'appelle un stade pervers de la vie de l'intellectuel, où il donnerait tout pour produire une pensée intéressante. Ou alors, pour la beauté d'une pensée, tout le reste devient dérisoire. Et donc effectivement, par rapport à ce qui pourrait être ma condition bourgeoise, qui est réel, hein, patrimonialement, je suis un bourgeois.
Vous dites bourgeois de gauche, c'est un concept que vous définissez dans votre livre. Vous parlez pas de vous d'ailleurs.
Ah, c'est pas moi, non. Ouais.
Mais il y a aussi des bourgeois de gauche.
Je pense que la cible principale de ce livre est vraiment le bourgeois de gauche, ou le bourgeois qui se dit de gauche et qui, au bout du compte, s'est révélé beaucoup plus bourgeois que de gauche. Mais je reviens à mon cas. J'ai un patrimoine de bourgeois, je ne pense pas bourgeois, et je pense que ça vient du fait que, au bout du compte, la beauté d'une pensée chez moi prime tout le reste. Et effectivement, j'ai une affinité très très forte et presque physique avec la tradition de la pensée radicale. C'est-à-dire que, désolé, un énoncé de Deleuze, un énoncé de Foucault, un énoncé de Bakounine, un énoncé de cette grande tradition intellectuelle qui est celle, je dirais, de l'anarchisme, d'une certaine gauche radicale, je resterai toujours fasciné et magnétisé par cette pensée-là, au mépris de ma propre condition, puisque c'est vrai que si je voulais être cohérent avec ma condition, bah, je rejoindrais la charrette des propriétaires qui ne pensent qu'à leurs intérêts.
Hommage aussi à Jacques Rancière, le philosophe que vous mentionnez aussi dans,
par exemple, oui,
dans votre livre. Merci François Bégodeau. Ce livre de la bêtise, c'est le titre exact, Histoire de ta bêtise. Avec quelle bêtise êtes-vous le plus indulgent?
Ah, avec la bêtise des bêtes, avec la bêtise des animaux, la vraie, vraie bêtise. Parce que là, c'est effectivement une très, très bonne question, parce que je suis court, je vous promets. Je pense qu'au bout du compte, c'est un livre sur la bêtise des intelligents. C'est la, ce que Pascal appelait les demi-habiles, vous savez, c'est un concept très très lumineux chez Pascal, ça. Les demi-habiles, ceux qui sont un peu intelligents, mais pas assez pour que ça devienne puissant. Mais dans la mesure où ils sont un peu intelligents, ils ont aussi perdu la puissance de l'animalité, la puissance de l'idiotie. Et donc, moi, j'aime bien l'idiotie, la vraie idiotie, pas la bêtise des intelligents.
Eh bien, je vous réfère et je vous renvoie à ce livre, Histoire de ta bêtise. Merci beaucoup, François Bégodeau. Merci. Le livre est paru chez Pauvert. Dans un